Les podcasts de Bien en Périgord, janvier 2022. Suzanne Boireau-Tartara. Adeline Lemasson est une jeune périgourdine de 21 ans. Elle est partie au Québec il y a 2 ans et demi pour poursuivre ses études dans le domaine de l'environnement et de la forêt. Et elle n'a pu rentrer en Périgord que pour ses fêtes de Noël, jusque-là contrainte par la crise sanitaire de rester dans ce pays où elle a envie maintenant de poursuivre son chemin et de faire sa vie professionnelle.
Je suis arrivée là-bas le 8 août 2019, donc il y a 2 ans et demi, et c'était surtout l'état d'esprit, j'avais très hâte. Mais j'avais très peur, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment mon confort. Et là, je pars seule dans un pays que je ne connais pas, sur un continent que je ne connais pas, et je peux pas dire « je prends le train, je rentre à la maison ». Si jamais ça va pas, je rentre à la maison. Parce que si, rentrer à la maison, ça demande déjà 14 heures de route pour me rendre jusqu'à Montréal, et ensuite un avion. Donc c'est pas si simple que ça. Donc c'était beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, mais l'avantage c'est que j'étais entourée de Français, on était plusieurs Français arrivés en même temps et à être accueillis et dans le cégep, et puis vu que le Québécois est quelqu'un d'accueillant, plutôt amical, bah, en fait on se met à l'aise et très vite la peur est partie et c'est plus l'excitation et la découverte qui est arrivée. Mais le gros choc, je pense le choc le plus qui m'a... Ben c'est le niveau scolaire, parce que c'est un système scolaire complètement différent, où on calcule en pourcentage, pas sur 20. On demande à ce que chaque cours est individuel, il n'y a pas de contexte de moyenne générale, tout ça. Et il faut pas réussir chaque cours, il faut avoir 60%, donc un équivalent de 12 sur 20 dans chaque matière, à chaque examen, pour pouvoir réussir à passer ce cours et pouvoir passer. Donc on n'a pas, par exemple, d'équivalent du bac ou du brevet. De gros examens de fin d'année, on n'a pas ça. Mais à chaque semestre, qu'on appelle session au Québec, on a des examens, en fait, c'est en continu, tout le temps. Donc, faut à la fois, on peut être tranquille et se dire, si on échoue un examen, on aura un autre examen. À la fois, il faut quand même travailler constamment. On ne peut pas se dire, bon, bah, je ne travaille pas tout le semestre et au dernier moment, je donnerai tout dans les révisions finales, parce que ça ne va pas marcher.
Le système scolaire au Québec est organisé différemment, y compris dans le cursus universitaire, avec d'autres critères, d'autres valeurs.
Beaucoup de matières nouvelles, parce qu'en fait, c'est très réflexion universitaire. Chaque semestre, j'ai de nouvelles matières, donc ça me permet d'avoir énormément de stocks de connaissances, un large panel de connaissances sur la forêt, de différents axes, au cours des 3 ans. Et ça permet aussi d'éviter la monotonie. Moi, ce qui est quelque chose qui me tue, c'est ça, c'est cette idée de toujours inlassablement faire la même chose. Alors que là, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours, on se dit, ben, s'il y a une matière qu'on n'aime pas trop, parce que c'est possible, hein. Moi, il y a plein de matières où je me dis, oh, celle-là, je l'aime moins. Et ben, dans 2 mois, c'est pas grave, parce que dans 2 mois, j'aurai une autre matière. Et j'entendrai plus, mais le principal, c'est que je la réussisse pour après passer une autre matière. Puis après, il y a toutes les matières qui sont pas nouvelles, mais qui sont revisitées, je dirais, qui sont le français obligatoire, les cours de français, de philosophie, d'anglais et d'espagnol, et qui même avec moi, avec mon 16 sur 20 au baccalauréat en français, ils nous ont dit non, vous refaites le français parce que on considère que vous n'avez pas les bases du français, et donc, et vous avez un examen final, un examen du ministère au Québec, qui est obligatoire pour tous les étudiants, à passer cet examen-là pour estimer qu'on a un niveau raisonnable en français pour rentrer dans le monde du travail. Donc j'ai dû refaire 3 ans de cours de français, sur tout recommencer, la littérature, l'écriture, l'orthographe surtout, parce que c'est quelque chose qui est primordial, alors qu'en France on a tendance à plutôt enlever l'orthographe très jeune. On dit que l'orthographe s'acquiert surtout au primaire. Puis très vite au collège, on ne corrige pas l'orthographe. Quand une rédaction est bourrée de fautes, on dit attention un peu à l'orthographe, mais on n'enlève pas de points, alors que là les points sont enlevés. Et que peu importe la matière, on peut remettre un rapport en aménagement durable, on peut remettre un rapport en géomatique forestière, qui est pourtant quelque chose qui se fait à l'ordinateur, la géomatique, c'est de la cartographie. Et ben l'écriture, l'analyse de notre carte qu'on va faire à l'écrit, on peut perdre des points pour l'orthographe. Je fais un diplôme d'études collégiales qui est considéré comme un BTS, les BTS licence à peu près en France, en technologie forestière. Technologie, ça débouche à technologue, mais c'est pour en fait différencier d'une technique en foresterie, de la technique forestière qui est, elle, plus fait en un an et qui a plus un équivalent de CAP. Alors que technologue, c'est vraiment BTS et on voit beaucoup plus de choses. Et avec ça, on peut être technologue forestier, on peut continuer les études pour rentrer à l'université et devenir ingénieur. On peut être pompier forestier, on peut changer totalement de voie et plus se diriger vers l'industrie, donc essayer de voir des scieries, l'ébénisterie, tout ça. Donc c'est tout, en fait on a un large panel à la fin, voilà. Et moi personnellement, je réfléchis plus à, parce que c'est plus dans cette optique-là que je suis rentrée en foresterie, c'était de comprendre en fait comment fonctionne la forêt et pas comment l'exploiter. Ça a plus été le fonctionnement et surtout la relation avec la faune, donc là, et puis les mycorhizes, donc avoir une espèce de symbiose en fait, savoir comment le biotope fonctionne. C'est des domaines où il faut être passionné, parce que ça peut être très vite, quand on prend ça, ce domaine-là, on se dit je vais mettre là-dedans parce que ça a l'air simple, parce que c'est un truc technique, professionnel, en France ce serait un équivalent de c'est dans l'agriculture. On pense qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir, on va se mettre là-dedans. Mais si on n'est pas passionné, ça va vraiment pas fonctionner parce que c'est beaucoup de termes latins qu'on doit apprendre, la taxonomie de la flore, on doit apprendre beaucoup de choses. C'est énormément de matière qu'il faut retenir, qu'il faut comprendre. Et quand on n'est pas passionné, ça peut pas marcher.
Pendant les vacances scolaires, Adeline a réalisé des missions et des stages en entreprise. Elle a aussi été recrutée pour des emplois d'été.
Le monde du travail, très différent en France, parce que j'avais déjà un peu fait des stages en France, mais il y a vraiment un côté de... Parce que moi, mon premier stage, je l'ai fait dans une société d'exploitation des ressources de la forêt, et moi j'ai plus fait de la forêt privée et tout ça. Et j'ai appelé, c'était ma première année, donc en fait, première année, on a juste les bases, donc en fait, on s'est identifié la flore qui nous entoure, les relations, quelques relations, mais on ne sait pas intervenir, vraiment. Donc j'ai appelé, j'ai dit que je savais faire ça, ça et ça, mais je ne suis pas vraiment capable, moi, je sais juste différencier un érable à sucre d'un érable rouge, par exemple. Mais ils m'ont dit, mais c'est pas grave, si vous êtes motivé, on vous apprendra. Et ça, c'est un truc qui, je me souviens, parce que ça m'a vraiment marqué de ce côté de... Le principal, c'est que vous ayez envie de venir. Le principal, c'est que vous soyez motivé, que vous soyez présent, que vous soyez là tous les matins. Et le reste, c'est pas grave, on vous apprendra. C'est normal que vous ne savez pas tout, ça fait que juste un an. Alors qu'en France, on s'attend à ce quand on recrute quelqu'un, qu'un jeune qui vient de finir ses études, qui a pas vraiment, il a juste ses connaissances de base... On lui dit, ah bah non, il faut avoir quand même 3 ans d'expérience, non, il faut avoir 4 ans d'expérience. Alors que là, c'est plus, c'est pas grave, venez comme vous êtes et on fera avec ça et on vous apprendra, on vous enseignera. Donc il y avait vraiment ce côté-là et puis vraiment le côté très facile d'avoir du travail si on est motivé. J'ai appelé qu'une fois mon entreprise pour ma première année, j'ai appelé qu'une entreprise et j'ai été tout de suite embauchée. Pareil pour le parc, j'ai appelé, j'ai fait un entretien et l'entretien c'est pareil. Moi je suis vraiment axée en foresterie, mais le parc lui il est plus axé sur la biodiversité en général. Donc il y a eu des questions sur un inventaire faunique, j'ai jamais fait ça. Et on dit, bon, ben, le principal c'est que vous ayez de bonnes réponses à peu près, que vous pensiez à peu près comment vous allez faire ça. Et finalement, j'ai été embauchée. Et quand j'ai dit, mais moi, je ne sais pas grand-chose sur la faune, à part ce que j'apprends en cours, qui sont la faune essentiellement forestière, on me dit, mais c'est pas grave, pareil, on va vous apprendre, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui m'attendent, parce que c'est aussi une vision très américaine, où c'est des entreprises qui viennent démarcher des étudiants. Et on a déjà des entreprises qui téléphonent à des étudiants qui ont, par exemple, mon premier stage, m'ont rappelé pour me dire, ah ben on sait que vous êtes finissante. Est-ce que tu voudrais pas venir dans notre entreprise? On sait de quoi t'es capable, on sait ce que t'as fait. En une année d'études plus notre stage, on sait comment tu travailles. Donc on s'attend à ce que tu travailles comme ça au minimum, mais encore meilleur parce que j'ai plus d'expérience. Et donc, il y a déjà des entreprises qui viennent démarcher des étudiants. Donc, c'est vraiment différent. Et c'est une optique très, c'est très optimiste. Parce que on ne se demande pas où est-ce qu'on va aller. On sait qu'il y a toujours une issue de secours. On sait qu'on aura toujours un travail derrière. Dans les épiceries, dans les centres commerciaux, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent. Mais d'étudiants très jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des jeunes de 16 ans. C'est à partir de 16 ans qu'on peut commencer réellement à travailler. Mais à 14 ans, on peut avoir des petits jobs par-ci, par-là. Et donc, ils ont vraiment cette vision-là d'avoir les études, mais aussi le travail. Il faut travailler très jeune, très tôt. Donc, ben, c'est aussi ça le fonctionnement. Et moi, j'ai postulé, et pareil, c'est un domaine, c'est des petits emplois étudiants, ils recrutent beaucoup. Donc, j'ai très facilement, j'ai même pas eu besoin d'amener mon CV, juste, ben, je suis motivée, donc je travaille au Canadian Tire, et j'ai même pas eu besoin d'amener un CV, ils m'ont juste dit, bon, ben, qu'est-ce que tu sais faire? Vu que j'avais fait un lycée professionnel spécialisé dans les métiers du chien et du chat, ben, j'avais vraiment une connaissance sur l'alimentaire canin et félin et aussi le système animalier. Donc, ils m'ont embauché dans le rayon animalier et ménager tout de suite. J'ai travaillé le samedi d'après, j'étais embauchée. Et donc, c'est ça, je faisais 8 heures par semaine de travail en plus de mes études et de mes travaux à la maison.
Partir faire ses études à l'étranger, c'est aussi une question d'argent, de moyens. Pour financer ses études, Adeline a eu recours à des jobs étudiants. Elle a aussi reçu une bourse du club des sourds optimistes, un club service qui soutient des parcours féminins. Et bien sûr...
Ma mère, principalement, qui a travaillé beaucoup, très fort, pour pouvoir m'aider, pour pouvoir m'encourager dans cette voie-là. Parce qu'elle savait que c'était vers là que ça s'enlignait et que c'était vers là que j'allais être bien. On a essayé de voir s'il n'y avait pas des soutiens de l'État, ce qui est beaucoup plus compliqué étant donné que je ne suis pas en lien avec une école. Donc tout ce qui est Erasmus, tout ça est beaucoup plus compliqué. Et au Canada même, ça a été compliqué dans ce sens où je ne suis pas québécoise. Et j'ai fait une demande au Sourds Optimistes. Donc j'ai passé un examen oral, plus j'ai envoyé un dossier avec tout détaillé. Donc on avait fait des calculs avec ma mère pour savoir à peu près combien ça allait me coûter en logement, combien ça allait me coûter en nourriture, le prix des livres, tout ça, et le prix de l'équipement aussi. Parce que habillée comme je suis en Dordogne, c'est pas du tout la même chose en plein hiver au Québec. Donc on a réfléchi, on a calculé, et on a déposé ça pour les Sourds Optimistes. Et j'ai pu avoir, j'ai été sélectionnée pour avoir la bourse des Sœurs Optimistes de Périgueux. Et j'ai redemandé au National, au groupe de Sœurs Optimistes pour la France, et que j'ai aussi obtenu une deuxième bourse, voilà, pour pouvoir m'aider à pouvoir continuer. Mais ça aurait été vraiment compliqué si j'avais pas eu cette aide-là. Et c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pas facile parce qu'on n'est pas vraiment aidé en dehors. Il faut vraiment essayer de démarcher, il faut vraiment avoir un aide extérieur. Et grâce à elle, et vraiment je les remercie pour ça, parce que j'ai pu, déjà d'un point de vue scolaire, j'ai pas eu à m'inquiéter. Tous les livres scolaires qui sont très chers, et puis comme je disais, chaque semestre on change de cours, donc chaque semestre il faut racheter des livres, donc qui me serviront toute ma vie, mais ça reste que c'est des livres qui coûtent beaucoup d'argent, parce que c'est des livres professionnels qui sont très lourds, avec beaucoup de documents, c'est des petites bibles pour chaque matière. Et donc tout cet argent-là, j'ai pas eu à m'inquiéter parce que c'est les Sourds Optimistes qui ont pu financer mes études. Je suis une femme, je suis étudiante et je suis dans l'environnement qui est le problème actuel, la problématique actuelle, hein, de la problématique sociale, c'est l'environnement, le réchauffement climatique. Donc j'étudie dans ce domaine-là. Mais je suis aussi, surtout, dans des métiers à tendance masculine. C'est, comme je disais avant, c'est une image de bûcheron, d'homme, voilà, et très peu de femmes, seulement 10% en foresterie, donc c'est essentiellement masculin. Donc ça a été, elles ont choisi pour ces critères-là qui correspondaient à leurs valeurs et qui m'ont permis de pouvoir progresser dans cette voie-là.
Justement, ce n'est pas toujours simple d'être une fille dans un univers d'hommes, et Adeline a pris les choses en main pour l'expliquer au niveau de ses études, mais aussi des employeurs chez lesquels elle se trouvait.
10% des forestiers, et quand on dit forestier, on parle de techniciens, ingénieurs, opérateurs, bûcherons, seulement 10% sont des femmes. C'est très faible. C'est très faible et ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'en fait, tous ces métiers que je viens de citer, les femmes peuvent le faire. C'est plus comme il y a des années où les draveurs, c'était des trucs très périlleux, où ils devaient sortir le bois par les rues, par l'eau, par les fleuves. C'était des très dangereux, où il fallait être très fort parce qu'il faut soulever les troncs, tout ça. C'est plus du tout le cas. C'est une époque totalement révolue. Tous les métiers en foresterie sont capables d'être faits par aussi des femmes. Et donc, nous, dans notre classe, dans notre département forestier, en cours, on était très peu de femmes. On était que 4 au début, 3-4. Et donc, avec des camarades de classe, on s'est dit, est-ce que ce serait cool qu'on se fasse un truc où on est juste toutes les filles et puis on discute, on parle. Parce que quand on est en stage, il nous arrive des choses, on s'est retrouvés dans des situations complètement incroyables. On a eu des problèmes avec nos collègues masculins, des réflexions, des phrases, de toute façon elle pourra pas conduire le pick-up, elle peut pas faire une marche arrière avec une remorque. Des choses comme ça. Avec une enseignante, qui est la seule enseignante femme actuellement en foresterie, on est parti de cette idée-là de faire une rencontre. Puis après, cette enseignante-là a récupéré cette idée-là et a chapeauté ce petit groupe en invitant aussi des femmes qu'elle connaissait dans ce milieu-là. Donc on a eu la visite d'une ingénieure forestière, on a eu la visite d'une enseignante d'université, on a eu la visite d'une personne qui travaille dans un parc. Et donc on a eu cette moi je suis plus vieille, j'ai eu cette expérience-là, voilà, je vous explique comment je l'ai vécu, qu'est-ce que c'était il y a 10 ans auparavant, qu'est-ce que c'était ça. Et là on s'est dit qu'il fallait agir, qu'il fallait faire plus qu'être juste un petit groupe de discussion, qu'on appelait un groupe de causerie, et il fallait intervenir, parce que si on n'intervient pas, ça changera rien, on continuera juste de se dire il y a un problème, mais on ne trouve pas de solution, on s'est transformé en club association femmes et fières en foresterie, et on a essayé de chercher des axes, des objectifs d'intervention. Puis là on s'est dit en fait qu'est-ce qu'il faudrait, mais il faudrait que les gens se rendent compte, donc il faudrait aussi inviter les femmes à travailler en foresterie. Et là on s'est dit il faudrait peut-être qu'on vise les écoles, parce que les écoles c'est au plus jeune âge, il faut avoir des représentations féminines. Si on voit une dame qui vient et qui dit moi je travaille en foresterie, je suis très bien, c'est un super milieu, tout ça, peut-être qu'il y a une enfant à l'école qui se dit moi je sais pas trop où aller, j'aime bien travailler dans le bois, je pourrais travailler en foresterie, c'est possible. Je mets au défi quiconque de regarder un magazine axé en foresterie. Donc par exemple moi c'est au Québec c'est Opération Forestière le magazine. On tourne les pages, c'est que des gros bonhommes toujours hyper caricaturés et il n'y a pas de femmes. Donc voilà, et même sur le site du Cégep, il y a très peu de femmes en foresterie. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on fasse des photos plus récentes avec des femmes qui tiennent, des tronçonneuses, des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui agissent. Et on s'est aussi dit qu'il faudrait un groupe de soutien sécuritaire où on pourrait se rencontrer tous les lundis et qu'on pourrait discuter de qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, et sensibiliser aussi les camarades de classe et surtout les professeurs. Donc on a fait des réunions avec les professeurs pour leur montrer qu'on existe et qu'ils peuvent venir nous poser des questions et leur rendre compte de ce qu'on vit avec des anecdotes, avec des choses comme ça, et sur quelle voie on pourrait s'améliorer. Et on a vu de l'amélioration, puisque dans nos évaluations, de plus en plus, les enseignants, au début, mettaient un opérateur forestier, un homme de machinerie, un technicien, sur le terrain. Là, on a plus une opératrice, une technicienne. Donc c'est déjà beaucoup mieux, parce qu'on se représente même dans nos évaluations, même dans nos mises en situation. Et puis on a mis en place des kits de menstruation. Ça peut paraître complètement dérisoire, mais on a élaborer tout ensemble avec aussi les professeurs un kit qu'on pourrait avoir avec quelques serviettes, quelques tampons, des doliprane, une culotte de rechange, des petits sacs poubelles pour mettre les affaires usagées, une petite bouteille d'eau, des petits savons hypoallergéniques pour se laver, des petites serviettes pour se nettoyer, intimes, tout ça, parce que voilà, et on l'a même déjà utilisé, et en fait c'est vraiment beaucoup plus à l'aise. Et le fait aussi d'en parler, on a été plus à l'aise de voir nos professeurs et de dire bon bah là aujourd'hui cette sortie terrain ça va pas être terrible parce que j'ai un peu mal au ventre, parce que voilà j'ai mes règles. Et c'est tout un système qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on en discute et qu'on vient, ah c'est beaucoup plus libéré, et on a déjà moins peur de dire. En fait on enlève vraiment cette partie de tabou. Il y a eu par exemple un professeur qui nous avait dit je pensais vraiment pas que c'était possible, c'est vrai que nous ça nous touche pas personnellement, en fait, j'avoue que je pensais pas, il y a toute une affaire avec ça, dites-le moi si jamais je suis pas correct, puis dites-le moi, n'hésitez pas à venir me dire que ça va pas, puis que je suis vraiment pas nice, et si je fais des réflexions, n'hésitez pas.
Adeline s'est également investie dans un groupe de réflexion, une approche philosophique du monde de la forêt. En effet, le Québec a mis de l'éthique et du développement durable dans la gestion de ses forêts. De quoi inspirer largement Adeline.
Question d'éthique, donc c'est on va être un groupe de travail qui aime la philosophie et qui se pose des questions, et on va aller débattre un sujet. À la colline du Parlement, à Québec. Et du coup, c'est ça. Là, le thème, c'est la géo-ingénierie climatique. La géo-ingénierie, c'est la relation entre les effets de l'homme sur l'environnement. Donc, c'est l'impact climatique. En fait, c'est ce qu'on voit dans la forêt. C'est bien ce qui est démontré, c'est que nous, on agit, mais dans notre vision d'homme. Donc en gros, admettons je plante un arbre aujourd'hui, moi je le verrai grandir, mais quand j'aurai 50 ans, cet arbre-là il aura que 30 ans. Et 30 ans dans la vie d'un arbre c'est très faible. Quand on sait que la durée moyenne de la vie d'un arbre pour les arbres qui ont une durée de vie très courte c'est une centaine d'années, et pour les autres par exemple le bouleau jaune qui a une moyenne de vie de 300 ans, c'est très faible. Mon impact actuellement, ce que je vais voir de ce que je fais, est très court. Mais le problème, c'est que si je fais quelque chose de mal aujourd'hui, moi, j'aurai juste les bénéfices de ce que j'ai fait, mais tous les impacts derrière, tous les malus, ça va être beaucoup plus tard. Et donc, il faut savoir que c'est ça le problème, donc c'est comme ça qu'a réfléchi très rapidement le Québec. Donc pendant des années et des années, on a exploité la forêt au Québec en n'ayant que les bénéfices. On coupe du bois, on transforme le bois, on fait de l'argent. Et ça enrichit les entreprises, ça enrichit toute l'industrie forestière à l'échelle humaine. Donc bénéfice, bénéfice. Le problème, c'est qu'on se rend compte que la forêt, elle n'est pas éternelle, et que si on continue de produire comme on produisait il y a des années, on va se retrouver à court de solutions et à court de forêt. C'est pourquoi on enseigne dans les écoles en foresterie à réfléchir autrement et à se dire qu'on a un réel impact. Et donc à faire de l'aménagement durable, et c'est le terme qui est utilisé en cours, l'aménagement durable des forêts, parce que on agit, mais pour avoir des résultats dans 200 ans. Les Amérindiens, les autochtones amérindiens, qui eux avaient déjà cette vision-là il y a des centaines d'années, très réfléchie, en se disant que la forêt offre, mais il fallait aussi qu'il donne, que tout ça c'était un équilibre avec la nature, et ils voyaient que on détruisait cette forêt-là. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu un rapport très connu d'un Québécois qui a fait un grand documentaire qui explique et qui montre, qui démontre avec des chiffres, avec des choses réelles, qu'il y a vraiment eu une chute de production, il y a une chute de qualité de bois, une chute du nombre d'individus, de biodiversité dans cette forêt-là, et qu'il fallait vraiment qu'on agisse, parce que plus tôt on agit, mieux ce sera. Et on a aussi un impact au niveau du réchauffement climatique, parce que à raser continuellement les forêts, il n'y a plus de stockage de carbone. Si t'as plus d'arbres, plus de carbone qui se stocke. Donc on se rend compte que ça se réchauffe et on se rend compte aussi que les arbres fruitiers qui amènent toute une biodiversité aviaire, si avec le réchauffement climatique les fruits arrivent plus tôt, la biodiversité aviaire qui elle est migratoire va arriver peut-être trop tard et donc il va y avoir tout un enchaînement catastrophique de situations qu'on est en train actuellement d'étudier et qu'on essaye de comprendre pour essayer de ralentir si ce n'est stoppé. La France s'est rendu compte beaucoup plus tôt que la forêt n'était pas, pas éternelle, parce qu'on a un territoire beaucoup plus restreint. On retrouve des rapports français d'il y a une centaine d'années, voire même il y a 200 ans, sur ces problématiques-là, que nous on est actuellement en train de se poser de questions au Québec. Sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes écosystèmes. On n'a pas du tout les mêmes arbres. Par exemple, là, en France, c'est vraiment le chêne qu'on essaye de préserver et qu'on essaye de se poser beaucoup de questions sur ce chêne-là. Alors qu'au Québec, c'est plus les forêts décidues d'érables, érables et d'épinettes qui sont en lien et en cause. Mais la France a déjà fait une avancée sur ça. C'est pour ça que beaucoup, de plus en plus de forêts privées françaises essayer d'être rachetés par le gouvernement pour en faire des parcs nationaux pour essayer de conserver ces espaces de biodiversité et diminuer, ralentir les coupes forestières.
En plus de son cursus à Gaspé, Adeline a enrichi son parcours avec des expériences sur le terrain, notamment au parc Forillon.
C'est un parc fédéral, parce que tu as parc fédéral et parc provincial. Donc le parc de la Gaspésie, ça appartient au Québec. Et le parc Forillon, qui est Canada, qui est au-dessus de Gaspé, ça appartient au Canada. Donc il y a plein de projets qui sont menés, dont le projet par exemple des martres d'Amérique. Donc c'était d'étudier en fait le comportement de la martre en fonction tout au long de l'année, en fonction de ses besoins, quel était son territoire et comment elle se déplace dans son territoire. Et pour savoir ça, en fait, il faut poser des petits colliers GPS sur des martres et capter des points séquencés. Admettons, elles émettent, le GPS émet un point avec les satellites, une fois tous les deux jours, il émet le point pendant, admettons, 6 heures, le temps que le satellite le reçoit. Et on enlève les colliers à la fin de la saison quand on estime qu'on calcule à peu près la batterie, combien de temps elle dure. Pour savoir, en fait, après on récupère la puce qui est émise dans le collier et ça nous donne une liste de points avec un segment sur un territoire. Et donc pour ça, il faut récupérer les martres. Donc on les appâte, donc on met des cages. Donc j'ai installé ça, des cages à martres, et on les appâte avec de la viande de castor. Et tu badigeonnes tout autour de phéromones de castor, infecte l'odeur. Pour que les martres, quand tu as une martre en particulier que tu as attrapée, qu'elle a un collier et que tu veux essayer de la récupérer, vu que tu sais où est son territoire, tu essayes de mettre la cage là où elle passe, là où c'est son endroit. Et donc, une fois qu'elle est attrapée, donc tu relèves les cages tous les jours, sinon tu as des photocaches. C'est des appareils qui se déclenchent au mouvement. Et ça envoie sur le téléphone d'un responsable tous les jours, tous les 6 heures, tous les 12 heures, une photo pour voir si la cage est fermée ou si elle est toujours ouverte. Si elle est toujours ouverte, pas besoin de se déplacer parce que c'est souvent dans des endroits reculés, c'est loin des routes un peu, c'est longtemps en forêt. Si elle est fermée, il faut intervenir pour aller récupérer la martre. Parce que on va pas la laisser des jours et des jours là-dedans. Elle est stressée, elle a pas d'eau, donc il faut essayer vraiment d'intervenir vite. La forêt, il n'y a pas juste la martre qu'on veut essayer d'attraper. Il y a tout un tas d'animaux qui passent devant, dont des orignaux très curieux, les ours qui sont très attirés par le petit bout de viande à l'intérieur. Donc il y a pas mal d'autres perturbateurs qui ferment les cages alors qu'il y a rien dedans. Voilà.
Forte de son parcours et de la dynamique qu'elle a trouvée dans ce pays, Adeline a bien sûr envie d'y rester, d'y faire sa vie, d'y trouver un travail.
En fait, ils ouvrent énormément de postes parce qu'il y a énormément de possibilités de travail. On peut travailler sur plein de choses, sur plein d'axes différents. sur tout ce qui est tous les insectes. Par exemple, actuellement, on a une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui est un petit papillon dont la larve en fait va manger les pousses d'épinette. Et ça va faire rougir en fait tout l'arbre, parce que la larve va mourir, va s'échouer, et donc ça détruit des hectares et des hectares de forêts résineuses. Et donc tu peux travailler là-dessus, faire une étude là-dessus, de comprendre comment ces épidémies marchent, alors que c'est des épidémies naturelles. C'est normal, c'est comme ça qu'une forêt fonctionne, mais on peut comprendre de comment faire que le papillon puisse faire ce qu'il fait naturellement, mais en même temps conserver une part de forêt viable pour l'industrie du bois. Il y a aussi l'axe qu'on peut se poser comme question, comment faire du bois de qualité pour essayer de remplacer beaucoup de matériaux de matières premières en matériel de bois, parce que comme je disais avec le carbone, le fait de contenir le carbone, on se rend compte que même un arbre coupé garde le carbone stocké. Si tu fais un roulage complet de ta forêt, tu vas avoir toujours, on estime que c'est à peu près au bout de 25 ans que l'arbre commence à son pic maximal de récupération, de stockage de carbone. Tout le carbone qui va stocker tout au cours de sa vie, tout le long de sa vie, quand tu le coupes et que tu le mets en planche, que tu fais des rondins de bois, tout ça, il continue de stocker ce carbone-là. Donc on se rend compte que par rapport à une entreprise qui va faire du ciment ou une entreprise qui va faire des briques, de la pierre, qui eux émettent énormément de carbone, il n'y a pas vraiment un équilibre. Eux ils émettent, mais rien de stock. Alors que dans le bois, on émet, mais il y a aussi du stock à derrière. Donc c'est plein d'axes différents.
Adeline va terminer ses études en mai. Elle vise la place de major, de promotion. Elle a envie de découvrir le Québec dans son entier et espère bien cheminer longtemps dans ce pays.
J'ai pas beaucoup de stock, mais je vais encore réduire mon stock parce que je pense que pendant quelques années, je vais partir de gauche à droite. Je pense que je vais avoir plein de petits appartements par-ci, par-là. Donc c'est ça, je pense que c'est... Puis dépendamment où est-ce que je vais, parce que vu que je suis une personne qui, et je le dis à tous les futurs employeurs, que en fait j'ai pas de rattache au Québec, j'ai pas de famille, je suis la seule qui... Je suis toute seule à être là-bas, donc en fait moi peu importe, donc peu importe où on me propose de travailler, je serai oui, et donc c'est pas forcément gaspé même. Ça peut être Havre-Saint-Pierre qui est à la pointe tout là-haut sur la côte nord. Ça peut être en Montmorency, c'est ça. Donc je vais bouger certainement. Avoir un maximum d'expérience et surtout pour me faire plaisir. J'ai profité pour prendre toutes les bonnes occasions et prendre tous les bons plans. Donc qu'on me dise « Ah, bah, il faut que tu partes dans l'ouest, près de Vancouver pour intervenir sur telle chose », je dirais oui certainement parce que j'ai hâte de découvrir et puis voilà, puis j'ai profité d'être jeune puis de ne pas avoir d'attache pour l'instant pour pouvoir voir un maximum de choses. Et après, quand je serai un peu plus établie ou que je me dirai bon bah c'est bon, j'ai à peu près fait le tour et j'ai plutôt envie d'être dans cette région là ou dans cette région là, ben je vais pouvoir m'installer réellement.
Adeline aimerait beaucoup devenir garde-parc, un gendarme de la forêt, de façon à pouvoir veiller sur ce milieu, éviter les braconnages, mener des enquêtes. C'est un rôle qu'elle aimerait jouer à l'avenir. Adeline ne parle pas encore d'un retour en France. Elle a très envie de rester dans ce pays aux valeurs qui lui plaisent tant.
La façon de réfléchir, la façon de voir les choses au Québec ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Qu'est-ce qui me plaît là-bas? C'est, je pense, le côté très... ça va faire très cliché, mais dire le côté très amical, très ouvert, très du Québécois, qui, quand il y a un problème, a tendance à dire bah, « c'est pas grave, c'est la vie ». Alors que le français va avoir plutôt tendance à s'ostiner sur le problème et s'énerver plutôt, d'essayer de trouver la solution et de se dire « il y a plus grave ». Alors que le Québec a vraiment cette vision-là, puis il y a beaucoup d'entraide aussi, parce que les Québécois, c'est un peuple qui a été longtemps tout seul, entouré d'anglophones. Donc c'était un petit peuple de francophones qui ont dû s'entraider avec des hivers très rudes, avec Donc c'est des gens qui ont tendance à se rendre compte que pour survivre, c'est l'union qui fait la force. Donc c'est ce côté de toujours aider son voisin, sa voisine, les échanges. C'est plus ça qui est important, alors que le français plus individualiste pense. Et moi j'ai tendance à être plus comme ça, mais c'est pas la bonne voie. Et donc j'aimerais plutôt travailler sur cette manière de penser. Au lieu de s'énerver et de manifester, c'est plus poser des questions. Dire pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est ça, pourquoi le prix il est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça. Donc c'est plus réfléchi, je pense. C'est une démarche plus de questionnement.